France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La polémique qui tombe mal pour un gouvernement qui ne parvient pas à faire voter le budget. Des milliers de personnes fortunées ne paient pas d'impôts dans notre pays, assure l'ancien ministre de l'économie Éric Lombard. Décryptage et réaction dans un instant. À suivre encore l'Iran, plus de manifestations ces dernières heures. La répression qui s'accentue et qui suscite la colère des Iraniens. C'est ce que va nous raconter notre correspondant sur place, Siavosh Ghazi, que nous avons réussi à joindre il y a quelques minutes. Nous parlerons aussi dans ce 13-14 des PME françaises, championnes de l'intelligence artificielle. Plus d'une sur deux l'utilise. De cette cave à glaciers. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Inaugurée ce matin dans l'Antarctique.
À la station Concordia, au cœur du continent blanc, un tunnel large de 5 mètres et long de 35 mètres a été creusé. Un frigo naturel. Par moins 52 degrés, il va conserver la mémoire des glaciers terrestres qui fondent à toute allure.
On va ouvrir ce frigo avec vous. Nous nous souviendrons également dans les prochaines minutes de Daniel Balavoine, mort il y a 40 ans. Reportage sur sa tombe à Biarritz avec de nombreux fans. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Son frère Guy sera avec nous. Il nous parlera de la chanson « Partir avant les miens ».
Cette chanson, quand il nous l'a fait écouter, on était sidérés parce que partir avant les miens, il parlait de son enterrement. On lui a dit, Daniel, mais comment tu peux enregistrer un truc comme ça?
Ce sera avec Frédéric Pommier. 13h30, l'assassinat de l'ancien leader nationaliste corse, Alain Orsoni. On en parle avec notre invité, le journaliste du Monde, spécialiste de la Corse, Jacques Folleroux, 01 45 24 7000. Pour être avec nous, 13h50, c'est la France. Paul-Émile Victor, Jean Mallory, ces explorateurs français au Groenland. Éric Fotorino, du 1 Hebdo, nous rafraîchit la mémoire. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il était encore ministre de l'économie et des finances il y a quelques mois. Éric Lombard, ancien directeur général de la Caisse des dépôts, sait de quoi il parle quand il parle d'impôts. D'où le choc provoqué par ses déclarations lundi matin dans le journal Libération, je le cite, « Parmi les personnes les plus fortunées dans notre pays, des milliers ont un revenu fiscal de référence de zéro. Ils ne paient aucun impôt sur le revenu. » Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Jérôme.
Des milliers de contribuables aisés, voire riches, ne paient pas d'impôt en France?
Alors, pas de confirmation, bien sûr, ce midi de Bercy qui oppose le secret fiscal. Est-ce qu'au moins c'est plausible? Reprenons les chiffres. D'un côté, pour être exempté d'impôt, il faut déclarer moins de 11 500 euros par an. De l'autre, sont considérés comme ultra riches, d'après l'INSEE, les plus de 460 000 euros, soit 0,1% des Français. Leur profil, des hommes, 50, 60 ans, chefs d'entreprise, médecins, avocats, sportifs. Certains jouent le jeu, 24 000 s'acquittent par exemple d'une surtaxe pour les ultra-riches. D'autres pratiquent en toute légalité l'optimisation fiscale. Ils basculent par exemple leur rémunération dans des holdings, ce qui permet de ne pas se verser directement de salaire, de toucher en différé des dividendes. Ils jouent aussi sur les remboursements de notes de frais et autres avantages en nature. De là à réussir chaque année à passer sous la barre des 11 500 euros et donc de ne pas payer d'impôts. Des fiscalistes estiment cela compliqué à mettre en œuvre et risqué. Et
évidemment, le débat rebondit sur le terrain politique.
Oui, c'est une bombe, nous glisse une députée écologiste. Cela corrobore, dit-elle, tous les amendements déposés pour retrouver de l'équité fiscale, à commencer par la fameuse taxe Zucman. Le président LFI de la Commission des Finances, Éric Coquerel, a demandé hier à Bercy cette fameuse note zéro impôt, une note essentielle en plein débat budgétaire, mais qui arriverait de toute façon trop tard pour que les parlementaires puissent rattraper ces ultra-riches qui s'affranchissent de l'impôt, car cela s'applique désormais la règle de l'entonnoir, et seul le texte budgétaire déjà déposé peut être de nouveau examiné, ce qui promet de bien beaux débats dès ce soir en séance.
Mathilde Dehimy, vous nous parlez du budget 2026, Mathilde, comment le faire adopter? C'est toute la question pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Il avait promis de ne pas utiliser l'article 49.3 de la Constitution, mais de nombreux ministres le réclament. L'autre piste, c'est d'en passer par des ordonnances, mais ça voudrait dire contourner totalement le Parlement et utiliser une arme inédite. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Vous avez suivi il y a quelques minutes le compte-rendu du Conseil des ministres à l'Élysée. Officiellement, rien n'est tranché.
Non, rien n'est tranché. 49-3, ordonnance. Le président n'a pas même de préférence, jure-t-on dans son entourage. Il est technologiquement neutre, selon la formule trouvée par ses conseillers. Le 49-3 n'a d'ailleurs pas fait l'objet de délibération au Conseil des ministres ce matin. On ne fait pas de 49-3 préventif en loose day, vante un proche du président. L'objectif pourtant n'a pas changé. L'adoption d'un budget en janvier et dans le gouvernement, le dilemme reste en effet entier. Car le recours au 49-3 présente des risques. D'abord, en effet, Sébastien Lecornu devrait se dédire à revenir sur sa promesse de ne jamais passer en force. Et puis, le résultat reste incertain. Si une motion de censure est adoptée dans la foulée, cela voudrait dire pas de budget et plus de gouvernement. Reste donc l'autre piste, les ordonnances, une arme constitutionnelle qui permettrait de contourner le Parlement, procédure jamais employée, qui créerait un précédent historique et dont les contours juridiques sont flous. Quel texte pourrait être décliné en ordonnance? Le projet de loi initial ou un texte amendé? Même les constitutionnalistes ne sont pas d'accord entre eux. Et puis, quelles conséquences politiques? Cela pourrait donner lieu à des motions de censure spontanées, voire le gouvernement tomber. Mais au moins, on serait sûr d'avoir un budget, résume un ministre. Sébastien Lecornu en est là à mesurer son risque.
Marie Mollet en direct de l'Élysée avec les moyens techniques de Benjamin Troncin. Cet après-midi à l'Assemblée, les députés examineront deux motions de censure. L'une déposée par la France Insoumise, l'autre par le Rassemblement National. Elles dénoncent toutes deux l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Quatre pays d'Amérique du Sud, à ce stade, ces motions n'ont aucune chance d'être adoptées. Vous nous parlez du Conseil des ministres, Marie Mollet, il y a un instant. Eh bien, un dialogue, ou en tout cas une opposition Emmanuel Macron-Donald Trump y apparaît, puisque le président de la République s'est exprimé à l'occasion de ce Conseil des ministres sur le Groenland qui suscite les appétits américains. Une violation de la souveraineté du Groenland entraînerait des conséquences en cascade qui seraient inédites, a prévenu ce matin le chef de l'État, qui dit que la France suit la situation avec la plus grande attention. Et quelques minutes plus tard, le président américain Donald Trump lui a répondu, je le cite, « Les États-Unis ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale ». Cet après-midi, les ministres des Affaires étrangères du Danemark et du Groenland seront reçus à la Maison-Blanche par le vice-président américain J.D. Vance. Que s'est-il passé le 7 octobre 2023 en Israël? Les faits sont établis, une attaque menée par le Hamas et d'autres organisations terroristes palestiniennes contre des civils dans des kibboutz, des communautés, mais aussi contre un festival de musique, le festival Nova. Problème dans un manuel français de révision à destination des lycéens de terminale. Les victimes du 7 octobre sont désignées comme, je cite, 1200 colons juifs. Bonjour Luc Anich.
Bonjour Jérôme.
Nombreuses réactions jusqu'au président de la République et excuses de l'éditeur.
Oui, Hachette Livre a même rappelé ce matin les trois manuels parascolaires intitulés Objectif Bac Terminal et dans lesquels le 7 octobre est qualifié comme, je cite, la mort de plus de 1200 colons juifs lors d'une série d'attaques du Hamas. Les livres ne sont donc plus vendus depuis ce matin. Hachette est en train de contacter toutes les librairies et magasins qui les avaient en rayon et Arnaud Lagardère, le PDG du groupe Hachette, a appelé ce matin en personne Yonatan Arfi, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France.
Il s'est évidemment excusé de cette affaire et de cette publication. Il a exprimé aussi le fait qu'il condamnait cette publication. Donc une enquête interne va être diligentée pour marquer la désapprobation vis-à-vis d'un contenu qui n'aurait pas dû être publié.
Il faut bien préciser que l'on parle de manuels parascolaires. Ce sont donc des livres de révision qui ne sont pas utilisés en classe, ni obligés de suivre le programme de l'éducation nationale, mais dont le processus d'édition et de validation, surtout, interroge Yonatan Arfi.
Il y a aujourd'hui parfois des auteurs de livres à destination de publics jeunes qui visiblement ont une approche idéologique de la question du Proche-Orient, qui sont dans une forme de complaisance avec les moyens employés par le Hamas, à savoir le terrorisme dans la région.
Et cette affaire est d'autant plus grave, dit Yonatan Arfi, que ces livres de révision sont utilisés par des lycéens qui n'ont, je cite, pas toujours l'esprit critique pour s'en distancier.
Luc Anich pour ses précisions. L'actualité de ce mercredi est donc toujours dominée par la situation en Iran. Depuis fin décembre, la répression des manifestations anti-régime a fait au moins 734 morts selon l'ONG Iran Human Rights, qui documente la répression, mais le bilan pourrait, dit-elle, être beaucoup plus lourd. Sur place, Internet est toujours coupé depuis jeudi et les communications avec l'étranger sont difficiles. Mais nous avons réussi à joindre sur place le correspondant de RFI et de France Inter, Siavosh Ghazi, qui est à Téhéran. Bonjour Siavosh.
Bonjour.
Quelle est la situation en ce moment à Téhéran, où vous vous trouvez? Y a-t-il eu de nouvelles manifestations ces dernières heures?
Alors j'ai interrogé plusieurs personnes, plusieurs habitants de plusieurs quartiers à Téhéran où il y a eu des manifestations assez importantes entre jeudi et dimanche. Par exemple le quartier de Pounak dans le nord-ouest, le quartier de Tehransar plus au sud, le quartier de Pastaran ou le quartier de Saadatabad. Dans ces quartiers-là qui avaient connu des manifestations importantes, la situation est plutôt calme, y compris hier soir, il n'y a pas eu de nouvelles manifestations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, depuis jeudi, les manifestations, c'était plutôt le soir. Même chose lorsque j'ai interrogé deux habitants dans la ville de Karaj, qui est une ville importante, collée pratiquement à Téhéran. Là encore, un calme précaire régnait dans cette ville. Et de même que dans la ville de Save, qui se trouve à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale. Donc depuis lundi, en fait, dans ces deux villes, il n'y a pas eu de nouvelles manifestations.
Pour ce qui est des manifestations qui ont eu lieu ce week-end et en fin de semaine dernière, quels étaient les mots d'ordre des manifestants ?
Alors, les plus grosses manifestations ont eu lieu donc jeudi, donc à la suite de l'appel qui a été lancé par Reza Pahlavi, le prince héritier de l'ancien monarque, donc qui a lancé un appel à manifester. On a eu de nombreuses personnes qui ont descendu dans différents quartiers. Les habitants de chaque quartier se rassemblaient sur par exemple la principale place dans le quartier ou la principale avenue. On voyait affluer des gens des ruelles vers ces centres où ils se rassemblaient avec des slogans très durs contre le pouvoir, par exemple abat la dictature ou contre les dirigeants iraniens, mais aussi des slogans en faveur du Reza Pahlavi. Notamment, par exemple, c'est la dernière bataille, par la vie reviendra. Donc, c'est vraiment essentiellement dans ces deux sens-là, c'est-à-dire d'une part contre le pouvoir, d'autre part en faveur de Reza Pahlavi.
Est-ce que vous avez ressenti de la colère dans les propos des Iraniens avec lesquels vous avez pu vous entretenir, notamment après la diffusion ces derniers jours de victimes, notamment des images issues de la morgue de différents hôpitaux du pays ?
Alors ces images ont vraiment choqué tous les Iraniens. Ce sont des images qui ont d'abord été diffusées par la télévision d'État. Le journaliste de la télévision d'État a présenté en premier ces images, avant que ces images soient d'autres images de cette même morgue soient diffusées par les télévisions, par satellite, notamment des télévisions persanes qui diffusent depuis l'étranger. Et en présentant, donc ce journaliste de la télévision présentait les morts comme des victimes des manifestants ou des fauteurs de troubles, des passants, par exemple, disait-il, en interrogeant par exemple des gens qui étaient là. Ensuite, lorsque d'autres images sont sorties, on a vu le nombre très élevé de cadavres, de corps, avec les familles qui entouraient, essayaient d'identifier leurs proches tués. Ça a provoqué une très grande colère, donc qui est très profonde chez les Iraniens quand on les interroge. Ça a beaucoup choqué les Iraniens que de voir ces images qui montrent que le nombre des victimes est très élevé, que le nombre des blessés a été très élevé aussi.
Le président américain Donald Trump, ces derniers jours, a menacé à de nombreuses reprises le régime iranien de sanctions s'il réprimait son peuple. Est-ce que ces menaces sont parvenues jusqu'à la population iranienne et comment est-ce qu'elle les perçoit, comment est-ce qu'elle les reçoit ?
Alors, surtout les menaces d'intervention dont on parle ici, c'est les tweets, les dernières déclarations du président Trump qui a dit que les États-Unis interviendront pour punir les responsables des morts. Donc, on ne parle que de ça dans les conversations. Comment les États-Unis vont intervenir ? Vont-ils viser les dirigeants politiques ou militaires du pays ? Bien évidemment, certains manifestants, certaines personnes qui avaient participé aux manifestations le souhaitent, alors que d'autres craignent, au contraire, un engrenage qui ferait basculer le pays dans des violences encore plus dures, avec le risque d'une déstabilisation du pays, comme cela a été le cas dans d'autres pays de la région, comme en Libye, par exemple, en Syrie ou en Irak. Côté pouvoir, c'est un ton de fermeté. Plusieurs responsables ont dit que l'Iran répondra de manière la plus dure à toute intervention et à toute attaque contre l'Iran. Et le chef de la force spatiale des gardiens de la révolution, qui est en charge du programme balistique du pays, vient d'affirmer que la production de missiles avait augmenté par rapport à la période d'avant la guerre de 12 jours, lorsque Israël a attaqué l'Iran, et que cette force était prête à répondre à toute agression de la part des États-Unis ou d'Israël.
Les informations de Siavosh Ghazi, le correspondant de RFI et de France Inter en Iran, joint il y a quelques minutes depuis Téhéran, le régime iranien qui promet ce matin des procès rapides pour les manifestants qui ont été arrêtés et les ONG de défense des droits de l'homme. Elles redoutent une première exécution aujourd'hui. En Suisse, le copropriétaire du bar Le Constellation, touché par un incendie la nuit du Nouvel An, Jacques Moretti, est en détention provisoire depuis le début de la semaine, et pour au moins 3 mois. Lui et son épouse sont visés par une enquête pénale pour déterminer leur responsabilité dans ce drame qui a fait 40 morts et 116 blessés. Et parmi les pays les plus endeuillés, il y a l'Italie, 6 morts, avec une prise de position qui fait beaucoup de bruit dans le pays ces dernières heures, celle du journaliste spécialiste de la mafia Roberto Saviano. Selon lui, ce qui s'est passé à Crans-Montana révèle l'ampleur de l'enracinement de la mafia en Suisse. Bruno Duvic, notre correspondant en Italie, a pu s'entretenir avec lui.
Saviano ne dispose pas de révélations autres que ce qui est sorti officiellement et dans la presse.
Nous n'avons que des indications, mais elles sont très très sérieuses.
Comme l'importance de l'argent liquide dans les affaires de Jacques Moretti, détaillée par un site d'investigation suisse.
Moretti, qui a des précédents énormes au plan pénal, achète sans avoir besoin de prêt, il a tout en cash. Le cash n'est pas forcément synonyme de mafia, mais il y a une grande opacité.
Autre élément, l'absence de contrôle de sécurité depuis 2019, reconnu par la commune de Crans.
D'où vient cette exception? Du succès de l'établissement? De fait, les contrôles risquent de gripper l'économie locale. Les contrôles ne sont jamais neutres, il ne peut pas y avoir de proximité avec la personne contrôlée.
Les Moretti investissaient-ils de l'argent sale? C'est le soupçon, ce que les enquêteurs n'évoquent pas dans les motifs de poursuite.
C'est à la magistrature de dire si ce sont des conjonctures, mais nous sommes typiquement dans une zone grise.
Et pour le journaliste, seule la justice italienne, dotée d'une législation anti-mafia, a les armes pour répondre à cette question. Le parquet de Rome a ouvert une enquête, mais pour homicide involontaire. Contacté ce matin, deux des avocats du couple Moretti n'ont pas répondu à ce stade.
Bruno Duvic, correspondant de France Inter à Rome. Les agriculteurs de la FNSEA ont quitté le centre de Paris. Ceux qui bloquaient depuis ce matin l'autoroute A50 dans le département du Var s'apprêtent à quitter l'autoroute en convoi, nous dit à l'instant la préfecture de ce département, mais ceux du sud-ouest, syndicat coordination rurale, prennent le relais. Ils manifestent depuis ce matin autour de Toulouse. Ils ont tenté de bloquer l'accès à l'aéroport de la ville. Le président de leur syndicat dans le Gers, également président de la Chambre d'agriculture, a été interpellé ce matin, comme 7 autres agriculteurs. 6 sont en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour entrave à la circulation et organisation d'une manifestation interdite, précise le procureur de Toulouse.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Ces chansons sont toujours dans nos oreilles, 40 ans après sa disparition. Le 14 janvier 1986, Daniel Balavoine meurt dans un accident d'hélicoptère au Mali, en marge du rallye Dakar. Il participait à une action humanitaire. Le fondateur de l'épreuve, Thierry Sabine, le pilote de l'appareil, une journaliste du journal du dimanche ainsi qu'un technicien de la radio RTL périssent également dans ce crash. Et l'on se rend compte aujourd'hui que Balavoine, véritable star au cœur des années 80, est toujours d'actualité. De nombreux artistes s'en réclament. Le rappeur Youssoupha prépare un concert hommage à la maison de la radio dans 10 jours. Et puis sa tombe à Biarritz est devenue un véritable lieu de pèlerinage, comme l'a constaté Hugo Marceau.
Massif, le marbre blanc est impeccable.
Vous avez beaucoup de choses. Là, il y a des choses qui ont été remises.
Et fait de l'ombre à un parterre d'objets mémoriels.
Régulièrement, il y a un rafraîchissement.
Ouais, tout le temps, ouais.
Des petites stèles gravées, des bouteilles.
Le sapin.
Venues s'agglutiner au fil des années autour d'un origine. Originel, un petit hélicoptère en plastique.
Comme un jouet d'enfant.
Moi, je l'ai toujours connu là. Depuis 5 ans que je suis là, je le vois.
Sophie Lebars, la gardienne du cimetière, veille chaque jour sur le temps.
Il a perdu des hélices.
Ouais, mais voilà, ça devait être un fan. Après, vous avez des petits cailloux avec des petits mots.
À ses côtés, Marielle n'est pas fan.
Moi, non. Moi, c'est Clo-Clo.
Et pourtant, cette retraitée du quartier se retrouve aujourd'hui liée à la vie, à la mort, avec Balavoine.
Tous les jours, je vais voir mes défunts, je leur porte le bonjour et j'ai une de mes nièces qui a mis un petit oiseau parce qu'elle est fan de Daniel Et chaque fois qu'elle vient, on vient et elle pleure.
Touriste en pèlerinage, habitué, personnalité de passage, Sophie Lebars voit et entend de tout.
Il reste, il s'assoit, il nous met de la musique. Alors des fois, je suis obligée d'intervenir pour leur dire de baisser un petit peu.
Et alors, quelle est la chanson qui revient le plus souvent ici?
C'est varié. Il y a le chanteur, bon, qu'on entend souvent. Mais non, en règle générale, les gens mettent...
Un petit medley.
Ouais, voilà.
Reportage ici, Pays Basque, et à 13h50, dans une demi-heure, Guy Balavoine, son frère, invité de Frédéric Pommier, dans C'est une chanson. Au Royaume-Uni, ce sont les ex-membres du groupe Police qui se déchirent. Le guitariste Andy Summers et le batteur Stewart Copeland ont déposé plainte contre Sting. Ils estiment n'avoir pas reçu leur juste part de royalties sur le streaming. Plus de 2 millions de dollars de manque à gagner, selon eux. La justice britannique étudie leur plainte depuis ce matin. L'année 2025 a donc été la troisième, la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Voilà ce que nous a appris ce matin l'Observatoire européen Copernicus, confirmant par là même la force du réchauffement climatique. Les glaciers en font les frais, ils ont perdu jusqu'à 40% de leur volume depuis 20 ans pour certains dans le monde, d'où ce projet de créer au cœur du continent antarctique le premier sanctuaire d'archives glaciaires. Il a même été inauguré ce matin, Sophie Bécherel. Les deux premières carottes contenant la mémoire climatique de la planète ont été acheminées il y a quelques jours à la station franco-italienne Concordia. Elles seront conservées par moins 52 degrés.
En effet, le but de ce projet, né il y a 10 ans, c'est de conserver la mémoire glacée de la planète pour les générations futures et pour la science. Car comme l'explique Jérôme Chaplaz, professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse, l'un des deux cofondateurs du projet, ces carottes de glace sont des bibliothèques du passé.
Les glaciers, ce sont des espèces d'enregistreurs naturels de ce qu'il y a dans l'atmosphère au cours du temps. Que ça soit des polluants, que ça soit l'histoire de la végétation, l'histoire des éruptions volcaniques, l'histoire du climat, des précipitations, etc. Tout ça, on le retrouve enregistré dans les glaciers. Et c'est une espèce de bibliothèque unique au monde qui est en train de disparaître.
20 sites de référence collectés en 20 ans et mis à l'abri dans une cave naturellement froide, c'est le plan. Les carottes sont des tronçons de 10 cm de diamètre, extraits mètre par mètre sur des dizaines, voire des centaines de mètres.
Les échelles de temps dépendent du glacier. Quelques siècles, par exemple, si on prend la glace que l'on a amenée en Antarctique en l'occurrence, par exemple la glace du Mont Blanc qu'on a forée en 2016, et puis on peut remonter à plusieurs dizaines de milliers d'années en arrière. L'opération qu'on a conduite en Bolivie sur le glacier Nevado Illimani à 6300 mètres d'altitude nous a permis de collecter de la glace formée il y a près de 20 000 ans.
Ce projet pacifique se veut international. Récemment, le Tadjikistan a offert une carotte de l'un de ses glaciers pour qu'elle rejoigne l'Antarctique. Les urgences ne manquent pas. Le plateau tibétain, le mont Logan au Canada, les Andes. En Afrique, il est déjà trop tard. La Tanzanie n'a pas laissé les scientifiques d'Ice Memory forer le glacier du Kilimandjaro. Il n'en reste que quelques mètres sans marche arrière possible.
On aura perdu les glaces du Kilimandjaro.
Tout à fait.
Merci Sophie Bécherel, qui a dit que la France était en retard pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Selon une étude de Microsoft, 44% des Français l'utilisent déjà. Cinquième rang mondial, c'est beaucoup plus que les Américains. Et c'est encore plus vrai pour les petites et moyennes entreprises françaises. C'est l'un des enseignements du dernier baromètre de la Banque publique d'investissement qui les accompagne. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Plus de la moitié de ces entreprises déclarent désormais l'utiliser.
Oui, 55%, ce qui a tout d'une révolution, puisque fin 2024, elles n'étaient que 31% à y recourir, et même 15% seulement en 2023. Fois 4 presque donc par rapport à aujourd'hui, Jérôme, comme dans cette société de conseil aux entreprises de 25 salariés que dirige Marie-Amandine Siquier à Aurillac dans le Cantal. Pour elle, l'usage de l'IA depuis maintenant un an est quelque chose d'assumé.
C'est, voilà, on ne peut plus faire sans, c'est comme je pense à la révolution Internet, mais c'est presque rien à côté de la révolution de l'intelligence artificielle.
La mission de son entreprise QHSE Concept est d'informer chaque jour les TPE-PME des dernières normes de qualité, d'hygiène qui changent en permanence. L'IA les ingurgite, les classe en un clin d'œil, ce qui dégage un temps colossal pour d'autres tâches. Alors vient la question, bien sûr, et l'humain dans tout ça. Voilà ce que répond cette chef d'entreprise.
On ne sera pas remplacé, en tout cas pas tout de suite, par de l'intelligence artificielle, mais on va être remplacé par tous ceux qui l'utilisent. Parce que par exemple, nous, quand on fait nos recherches réglementaires et qu'on y met une journée à le faire et qu'après on va chez un client, comment ? C'est hyper compliqué de valoriser ce temps de travail parce que vous avez la réponse, vous lui donnez en 2 minutes. Vous avez travaillé un jour derrière. Donc, parce que l'IA va remplacer des tâches difficilement valorisables, on va déplacer la valeur et on va pouvoir prendre plus de temps et de relations humaines avec nos clients.
Le juste équilibre entre IA et humain qui fait l'objet de la plus grande vigilance, on le sait, de la part des syndicats.
Passionnant, merci Maxime Debs. Le cinéma.
Oh capitaine, mon capitaine, tu sautes, moi je saute, pas vrai.
Cours, Forest, cours.
Les sorties de ce mercredi, c'est avec vous comme chaque semaine. Bonjour Alexis de Meyer. On commence Alexis avec ce drame historique, Fursi né libre, réalisé par Abdelmalik.
Fursi né libre, esclave maintenu par la cupidité des hommes.
Fursi devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années.
Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier.
Les voix par ordre d'apparition de Makita Samba, Romain Duris et Vincent McCain dans les rôles de l'esclave Fursi, de son avocat et de son propriétaire. Anna Girardot, Philippe Torreton et Michel Escaut sont également au générique de cette deuxième réalisation d'Abdelmalik, 12 ans après qu'Allah bénisse la France. Le rappeur s'empare donc cette fois-ci d'un fait historique, le long combat judiciaire au début du 19e siècle d'un esclave réunionné, à l'époque on disait Bourbonnais, pour faire reconnaître son statut d'homme libre. Le parcours de Fursi est aussi passionnant que déchirant, mais l'ambiguïté de cet homme complexe est ici complètement gommée, et les soucis récurrents de mise en scène et de direction d'acteurs sont eux aussi bien frustrants.
Autre drame historique en salle aujourd'hui, Palestine 36.
C'est la poète et cinéaste palestinienne Anne-Marie Jassir qui signe ce film de deux heures dont l'action se situe, vous l'aurez compris, en 1936. La Palestine est alors sous mandat britannique et l'arrivée massive de réfugiés juifs fuyant l'antisémitisme en Europe entraîne des bouleversements dans ce territoire. Les Palestiniens lancent la plus vaste insurrection jamais menée contre l'Empire britannique, dont la répression est particulièrement sanglante. Même si la structure du film manque un peu d'originalité et que les personnages de militaires anglais auraient sans doute gagné à être moins caricaturaux, Palestine 36 se révèle d'une grande efficacité combinant précision historique et ampleur romanesque. De grands comédiens comme Yam Abbas, Saleh Bakri et Jeremy Irons contribuent à faire de cette œuvre poignante une grande réussite.
Vous avez été moins convaincu en revanche Alexis par le thriller Sans pitié.
Oui, car on a du mal à comprendre ce que veut nous raconter ici le jeune réalisateur français Julien Osmalin. Cette énième histoire de vengeance n'a pour seule originalité que de situer son intrigue dans le milieu des forains et des hauts fourneaux en Belgique.
Mes chers enfants, levons le verre pour Maria.
Maria, c'était la mère de Ryan et Dario, deux frères qui se sont perdus de vue depuis 20 ans et qui se retrouvent le jour de l'enterrement de Maria. Lorsqu'il était enfant, Dario a été victime d'un prédateur sexuel qu'il compte bien retrouver à l'occasion de son retour dans le campement de forains où il a grandi. Au-delà d'un scénario peu passionnant, les récurrents problèmes de dialogue et d'interprétation achèvent de faire perdre en crédibilité ce polar bien viril.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
28 ans plus tard, Le Temple des Morts, quatrième volet de la saga d'épouvante créée il y a 25 ans par Danny Boyle. L'affaire Bojarski, le drame historique signé Jean-Paul Salomé avec Reda Kateb dans le rôle titre du faussaire polonais. Et Les Courageux, le portrait d'une mère excentrique et délinquante qui élève seule ses trois enfants.
Merci Alexis de Meyer et bonne séance à toutes et à tous. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, le film continue. Nous serons dans quelques minutes avec Céline Dacosta pour la météo de ce mercredi. À partir de 13h30, toutes vos questions après l'assassinat d'Alain Orsoni en Corse. Il y a deux jours, questions sur le mobile, la méthode, la personnalité de la victime, le silence des autorités. 01 45 24 7000 pour vos questions au journaliste Jacques Folleroux, spécialiste de la Corse au journal Le Monde. 13h45, notre feuilleton. Nous accompagnons toute cette semaine les gendarmes en montagne. De forts risques d'avalanche, toujours sur les sommets. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Éric, vous nous parlez du Groenland, mais quel est le lien avec la France?
Et oui, je ne vais pas, Jérôme, vous parler de géopolitique, mais d'expéditions polaires en Arctique, marquées en particulier par les aventures de deux grands explorateurs français, Paul-Émile Victor et le défenseur du peuple inuit, Jean Mallory, qui fit l'éloge autrefois des derniers rois de Thulé.
Et avec vous, Frédéric, un chanteur et un frère.
Le chanteur, c'est Daniel Balavoine, mort il y a précisément 40 ans aujourd'hui. Vous en parliez tout à l'heure. Et le frère, eh bien, c'est Guy Balavoine. Ce sont ses souvenirs que nous écouterons autour de la chanson « Partir avant les miens ».
Merci à tous les deux. À tout à l'heure.
France Inter présente
la série d'affaires sensibles Hitler et le cercle du mal.
Fabrice Drouel.
La seule évocation du nom d'Hitler fait ressurgir l'idée d'un monde et d'un temps maudit. Mais se rappelle-t-on que Mein Kampf a été un best-seller? Connaît-on réellement les serviles S ou Speer qui gravitaient autour de lui? A-t-on percé les morbides mystères entourant son cadavre?
Affaire sensible.
La série Hitler et le cercle du mal à télécharger sur l'appli Radio France.
Les belles promesses, c'est le roman événement de Pierre Lemaitre. Des travaux titanesques dans tout Paris. Un bébé réchappé d'un incendie, le cœur d'un homme écartelé, un monde rural menacé, des femmes sorties de l'oubli et un effroyable dilemme moral. Au bout du chemin, pour la famille Pelletier, ce sera l'effondrement ou l'apothéose. Par bonheur, le chat Joseph veille encore. Les belles promesses, un roman déchirant et enthousiasmant de Pierre Lemaitre aux éditions Calman Lévy.
France Inter, partenaire de la tournée des Misérables. La comédie musicale légendaire d'Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg a conquis plus de 130 millions de spectateurs dans le monde. Après son triomphe au Théâtre du Châtelet et récompensé du Molière du spectacle musical, elle revient au printemps 2026 pour une tournée exceptionnelle dans une mise en scène magistrale de Ladislas Chola. Les Misérables, en tournée à Lyon, Nantes et Lille, du 18 février au 26 avril, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu-Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu-Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Temps faiblement perturbé mais très doux cet après-midi.
Oui, alors pour la couleur du ciel, c'est surtout le gris qui domine. Un ciel largement couvert du sud-ouest jusqu'aux frontières du nord. Alors les averses de ce matin se décalent doucement vers l'est du pays. Du coup, le ciel est un petit peu plus changeant sur l'ouest avec encore quelques averses qui reviendront en deuxième partie d'après-midi, notamment sur la Bretagne, les Pays de la Loire. En attendant, on a l'espoir quand même de quelques éclaircies. Le temps est plus sec, plus lumineux, des Pyrénées jusqu'aux Alpes, avec toujours ce risque d'avalanche élevé sur les Alpes. En revanche, ça reste couvert, comme ce matin, sur le Languedoc-Roussillon, avec quelques averses sur les Cévennes. Soleil également pour la Corse.
Et donc de la douceur.
Oui, on relève 9 degrés pour la plus basse à Lille, 11 à Paris, 13 à Besançon, 15 à Bordeaux, 16 degrés à Ajaccio et même 17 pour la maximale à Biarritz. Vous ne me demandez pas si ça va durer ? Jérôme, cette douceur.
Mais non, ça va durer.
Demandez-moi.
Hein, ça va durer.
Alors, ça dure encore jusqu'à la fin de semaine.
Eh ben oui, ça
va commencer à baisser doucement. Alors, rien de comparable avec les températures qu'on a eues fin décembre. Mais quand même, on va repartir à la baisse à partir de lundi.
Merci Céline Dacosta, 13h32.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Jacques Folleroux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au Monde. Cela fait plus de 30 ans que vous travaillez sur la question du terrorisme et de la mafia en Corse. Votre dernier livre, Mafia Corse, une île sous influence, a été publié en 2022 chez Robert Laffont. 01 45 24 7000 pour tous ceux qui veulent vous poser des questions. Vous passez aussi via l'application Radio France et l'onglet Réagir. Jacques Folleroux, l'assassinat avant-hier en Corse de l'ancien leader nationaliste Alain Orsoni. Lors des obsèques de sa mère a marqué les esprits en Corse et au-delà. On va converser ensemble avec les auditeurs dans un instant. D'abord, je voudrais donner la parole à un homme qui connaissait bien, Alain Orsoni. Il se nomme Joe Peraldi. Il a été longtemps un cadre du mouvement nationaliste corse, ancien leader du FLNC, ancien chef militaire également de cette organisation nationaliste. Il a côtoyé Alain Orsoni pendant plusieurs années. Je l'ai appelé ce matin. Particularité, Joe Peraldi a pu voir Alain Orsoni à Véro quelques heures avant sa mort.
Quand j'ai lu dans le cahier de deuil, je savais que je vois tous les matins, encore ce matin, le journal, je regarde toujours le cahier de deuil, et j'ai vu que la mère d'Alain Orsoni était morte après 5 ans de souffrance, enfin bref. Donc je savais qu'Alain allait être là. Qu'est-ce que j'ai fait ? 2 jours après, je suis monté avec des amis pour lui présenter les condoléances et ainsi qu'à la famille, et m'incliner bien sûr devant la dépouille de Madame Orsoni, de la mère. Et là, nous avons passé 2 heures à discuter à plusieurs, à l'extérieur de la maison, hein, c'est sur le centre du village de Véro. Il était qu'on appelle serein, pas du tout inquiet, il était habillé normalement, ni gilet pare-balles, ni garde du corps autour, que des amis et des gens qui étaient là pour les soutenir. Donc, comme je ne pouvais pas assister aux obsèques le lendemain, c'est-à-dire le jour où il a été tué, je suis remonté à 10 heures du matin avec un autre ami pour lui dire qu'on est désolé de ne pas pouvoir être là. Il était tranquille, comme d'habitude. Le matin, il était sorti seul faire des courses sur Ajaccio, avec sa avec une voiture, bien sûr, habillée de la même manière, ni gilet pare-balles, rien du tout. Et voilà, nous l'avons vu revenir à la maison, chez lui, hein, voilà, tranquillement, serein. Et nous avons discuté. Là, nous l'avons quitté vers 11h30. Et à 16h, il y a quelqu'un qui était aux obsèques qui m'a appelé immédiatement en me disant « Jo, voilà, on vient de tirer sur Alain Anthony ».
Il ne vous a pas du tout donné l'impression de quelqu'un qui craint pour sa vie. Il ne vous a pas parlé de menace.
Non, absolument pas. Absolument pas. Non, vous savez, je vais vous dire sincèrement, peut-être avait-il en tête que en Corse, lorsqu'il y a un enterrement, on enterre une mère, un père ou qui que ce soit d'une famille, si il y a un danger quelconque, normalement, il s'efface. Il y a une tradition. Vous savez, le cimetière s'appelle Ougan Poussantou, c'est-à-dire le lieu saint, et qui a la même sacralisation qu'une église. Dans une église, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas de mal. Et donc le cimetière est un peu dans ce truc que nous avons, nous, un lieu sacré. Donc elle est allée accompagner sa mère à sa dernière demeure, et normalement, en Corse, il y a une tradition où on doit rien faire, pas de mal, pas de tir, pas de coup de feu, rien du tout. Et si vous voulez, là, avec la manière dont Alain a été assassiné au pied du cercueil de sa mère, enfin pas très loin, qu'est-ce qui s'est passé? On a vraiment profané au plus profond de nos valeurs sacrées. Vous comprenez? Ça ne se fait pas. C'est la première fois que ça arrive en Corse depuis toujours.
Comment est-ce que vous avez réagi quand on vous a annoncé sa mort et dans ces circonstances, cet assassinat?
J'ai eu un choc terrible, comme beaucoup. Toute la Corse a été choquée par ça. Hein. Qu'on soit avec Alain ou contre Alain ou ce que vous voulez, on a très mal pris ce geste. Et puis en plus, Alain aujourd'hui n'est plus en politique, n'est très loin, il vit au Nicaragua, vous vous rendez compte. Il venait très très rarement en Corse. Hein.
Le témoignage de Jo Peraldi, ancien leader du mouvement nationaliste corse, FLNC, c'était ce matin, on l'a écouté ensemble, Jacques Folleroux. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti un choc? Vous avez été stupéfait par ce qui s'est passé avant-hier dans ce village de Véro?
Genre j'ai moins été stupéfait par le lieu où ce crime a été commis, ouais, que par en fait le symbole et le signe que ça envoie à la société corse après une année 2025 qui a vu quand même l'émergence d'une forme de balbutiement de parole anti-mafia globale avec la société civile, les élus et l'État. Et donc je trouve que c'est un message terrible adressé à une population qui a tout d'un coup vu surgir un tout petit espoir que les choses pouvaient évoluer. Je pense que c'est ça la plus mauvaise nouvelle.
Oui, on va revenir sur ce contexte parce que vous, ce discours, ça ne se fait pas comme s'il existait une sorte de code d'honneur, y compris chez ceux chargés d'assassiner les autres. Vous n'y croyez pas?
Non, je pense qu'il y a une instrumentalisation de d'une culture qui est réelle, hein. Une culture en Corse, comme un peu tout autour du pourtour méditerranéen, dans des sociétés très, très claniques. Il y a un rapport à la mort, il y a un rapport à la famille, il y a un rapport à l'identité, etc., qui est singulier en Corse. Néanmoins, je veux dire, on pourrait faire la liste, ce serait assez long, de ce qui pourrait choquer le soi-disant code d'honneur ou la culture. Des enfants, des gens qui ont été abattus devant leurs enfants, des parents qui ont été tués en même temps que leurs enfants. Vous avez encore eu au début de l'année dernière une jeune fille de 18 ans qui a été tuée à la place de visiblement son compagnon. Donc la liste pourrait être longue, des infractions, des voilà, à la morale, à une culture qui soi-disant respecterait la liberté des gens et surtout la vie des gens.
Pourtant, c'est un discours qu'on entend, y compris dans la bouche des Corses de la rue, oui, quand mais alors, on leur tend le micro. Vous avez refusé dans la société.
C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, en effet, c'est de voir en fait l'état d'esprit. C'est-à-dire que à cette perception, ça ne se fait pas à l'enterrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut se faire ailleurs. Ouais. Déjà. Deuxièmement, je trouve moi ce qui m'a frappé, c'est aussi les réactions. C'est-à-dire que il a été mentionné très rapidement là par M. Peraldi que en effet, dès le samedi, il y a un avis de décès qui indique le déroulement de l'enterrement le lundi qui suit. Or, après sa mort, j'ai déjà entendu un certain nombre de personnes dire, mais quand même, pourquoi est-ce qu'ils ont publié l'avis de décès samedi, deux jours avant son enterrement? Pourquoi est-ce qu'il est venu à l'enterrement de sa mère, etc., etc. Donc c'est comme si les esprits étaient déjà imprégnés d'une espèce de rapport à la violence, que voilà, il ne fallait pas qu'on publie cet avis de décès, il ne fallait pas prévenir qu'il venait lui-même, ni même venir. Donc vous voyez à quel point cette culture de la violence a imprégné les esprits, et c'est comme si ça participait à un fonctionnement, un logiciel normal, différent oui, d'une autre, quoi.
L'enquête débute à peine, Jacques Folleroux, on cherche évidemment à comprendre un mobile, et vous expliquez dans votre article publié dans le journal Le Monde que des proches du fils d'Alain Orsoni, Guy Orsoni, ont déjà été assassinés dans des circonstances similaires au fond ces dernières années.
Oui, c'est-à-dire que on voit bien que le modus operandi, il obéit quand même à une forme d'organisation. C'est pas un acte qui a été improvisé, même s'ils l'ont appris l'enterrement.
Oui, ils ont eu peu de temps pour se préparer.
Ils ont eu peu de temps pour se préparer, je pense. Mais on voit bien, je veux dire, c'est un pas de tir à plus de 100 mètres. Ça demande quand même déjà une logistique, une préparation. Il faut des informations. Il faut savoir s'il va venir ou pas, s'il portera ou pas un gilet pare-balles. Donc ça demande une organisation. Donc ça renvoie vraiment à une criminalité organisée. Et donc ça c'est le premier point. Donc il y a en effet deux pistes aujourd'hui, deux pistes qui sont suivies par les enquêteurs. C'est soit des bandes actuelles qui se partagent le contrôle de la ville et du Grand Ajaccio.
La ville d'Ajaccio, oui.
La ville d'Ajaccio. Pourquoi s'en prendre à Alain Orsoni, qui a 71 ans, qui est quand même largement retiré des affaires, de toute vie politique, d'investissement sur l'île, qui vit à l'étranger? C'est parce qu'en fait, et là ça nous renvoie à une compréhension vraiment du fonctionnement de la Corse. C'est-à-dire qu'il incarnait une forme de pouvoir passé, et donc susceptible d'être une forme de contre-pouvoir et de résistance à l'emprise de ceux qui sont actuellement aux manettes. Donc je pense qu'il y a un message qui est envoyé à la fois, c'est un règlement de compte, c'est la mort d'un homme, mais c'est aussi un message adressé à la population. C'est un message adressé aux autres éventuels concurrents sur le terrain criminel. Et c'est une façon de dire à la population, regardez, la loi, c'est nous. C'est, y a beau avoir un PNACO, il y a beau avoir...
Parquet national anticriminalité.
Il y a beau avoir des collectifs anti-mafia, il y a beau avoir une session spéciale à l'Assemblée de Corse sur l'emprise mafieuse, la loi c'est nous, et c'est un rappel à la loi mafieuse.
Vous faites vraiment un lien direct avec ces manifestations anti-mafia au printemps et à l'automne, la création de coordination, de collectifs, les cours anti-mafia qui ont fait leur apparition dans les collèges corses depuis le mois de septembre.
Oui, je pense que vraiment, je fais le lien, c'est-à-dire que ça répond. Peut-être que les personnes qui sont à l'origine de cet assassinat n'y ont pas pensé, mais de fait, quand on regarde sur l'ensemble de l'histoire contemporaine, actuelle de la Corse et de toutes ces forces antagonistes qui s'y jouent, et cette emprise criminelle qui pèse quand même, je ne me paie pas de mots en parlant de ça, ni même de mafia. Dire le mot mafia, c'est aussi dire le mal qui pèse sur la société corse. C'est-à-dire que vu de Paris,
ça veut dire quoi, ça pèse? On est chef d'entreprise, on est victime d'extorsion de fonds, on nous demande de l'argent tous les mois, c'est ça?
Que je pense qu'en Corse, il existe un pouvoir parallèle, un pouvoir parallèle qui est davantage craint et respecté que celui de l'État, que la justice ou la police, qui sont présents en Corse. Hein. Mais vous avez en effet ces gens-là qui pèsent sur la vie économique, sur la vie politique. Pourquoi mafia? Parce que ce sont des criminels qui sont sortis de leur écosystème purement criminel. Ce sont des gens qui pèsent sur les élections, sur les élus, sur la commande publique, il y a le racket, et ce sont des gens qui exercent un pouvoir social. C'est-à-dire que dans la tête des gens, en Corse, les gens savent que si jamais ils s'opposent à ce pouvoir parallèle qui est adossé à une force, hein, à un pouvoir de violence, ils peuvent y payer de leur peau. Et l'assassinat d'Alain Orsoni rappelle à tout individu, et là on parle que de la société civile, à toute personne, chef d'entreprise, maire, élu, etc., membre d'association, les membres des collectifs anti-mafia aujourd'hui, ils doivent aussi se poser la question. Se dire, mais si on est capable de tuer Alain Orsoni à plus de 100 mètres avec un fusil à lunettes ou un fusil de sniper, tout le monde peut payer de sa vie le fait de s'opposer à leur pouvoir. Et l'État, le pied de nez à l'État, il est spectaculaire. Parce que ça veut dire que vous avez beau envoyer des magistrats, créer un pôle anti-mafia en Corse, un pôle national anticriminalité à l'échelle du pays, on peut tuer qui on veut, quand on veut, c'est dès lors que celui-ci incarne une forme de contre-pouvoir et de résistance.
L'État, c'est le préfet, il n'a pas réagi, me semble-t-il, officiellement à
non,
ce stade.
Non, c'est très différent de son prédécesseur, qui est resté peu de temps, qui lui avait incarné une forme de, justement, c'était assez inédit de voir l'État, son représentant, prendre la parole, dire l'État a commis, a pas forcément été totalement vertueux, mais c'est une responsabilité collective. Et si on assume collectivement les manquements, peut-être qu'on arrivera à faire reculer cette emprise criminelle sur la société corse. Le préfet actuel est beaucoup plus classique, a reculé d'un pas, notamment sur l'affirmation de l'engagement de l'État contre ce fléau. Et certes, et je pense que c'est face à une violence comme ça, qui est un... C'est très paradoxal, la notion de mafia corse. C'est-à-dire que c'est une... c'est même un défi pour un esprit rationnel et surtout pour le code de procédure pénale. C'est-à-dire que c'est une organisation sans informelle, c'est une religion sans église, c'est un État sans institution, mais pourtant c'est une organisation qui est en perpétuel renouvellement et dont chaque Corse connaît l'existence. Et connaît l'existence pourquoi ? C'est parce que le passé montre, hein, et ça remonte à un certain nombre d'années, que si vous êtes avocat, si vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie, si vous êtes un leader nationaliste à la retraite, etc., etc., vous pouvez vous faire tuer.
Sur la personnalité d'Alain Orsoni, question de Nathalie du département du Rhône, il ne faut pas nous faire pleurer pour cette personne, c'est une personne qui avait, nous dit-elle, des meurtres sur la conscience. C'est quoi le passé d'Alain Orsoni, oui, mais... au-delà du militantisme pour la cause nationaliste ?
Je l'entends ça, en Corse aussi on l'entend, c'est-à-dire, mais c'est un discours, je veux dire, c'est de la vendetta, on est tous dans un état, dans une société où il y a un état de droit, c'est la justice privée, on va pas chacun aller régler ses comptes à coup d'armes à feu.
Et mais il avait du sang sur les mains.
Il avait du sang sur les mains. En tout cas, il n'a jamais été condamné pour des meurtres de sang. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a en effet toujours vécu sur ses gardes et dans un climat de violence. Et lui-même a, depuis le début, ça a été un militant clandestin du FLNC. Ça a été quelqu'un qui a été dont la mort, dont la vie était en danger lors de la guerre fratricide au début des années 90 entre nationalistes. C'est quelqu'un qui a été visé par les voyous. Il a échappé d'une extrémiste à une première tentative d'assassinat en 2008. Donc c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans cet environnement-là. Est-ce que ça justifie qu'il soit tué par une espèce de justice divine ou une justice privée ? Je pense que dire ça, ça veut dire qu'on sort de l'état de droit dans lequel on vit tous.
Merci Jacques Folleroux d'avoir été avec nous aujourd'hui, invité de ce 13-14. Je renvoie, pardonnez-moi, à vos articles dans le journal Le Monde et à votre livre 2022 chez Robert Laffont. Mafia Corse, une île sous influence, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Chaque jour cette semaine, nous suivons les gendarmes qui assurent les secours en montagne, car 6 skieurs sont morts le week-end dernier dans des avalanches dans les Alpes. Et pour les retrouver, sous la neige, on mobilise des maîtres chiens. Notre reporter Erwan Chassin est avec l'un d'entre eux à Briançon.
Couche, couche. Tu veux pas me le donner ce jouet ? T'es un crapaud, hein ?
Et...
Alors en fait, quand on entend ronfler comme ça, c'est pas du tout de l'agressivité. C'est que le jeu, moi j'aime bien le rendre, quand je joue avec Morito, j'aime bien le rendre bourrique. Si je lui envoie juste la balle et qu'il va jouer dans son coin, bah, en fait pour moi c'est pas du jeu, quoi. Enfin, moi le jeu c'est avec lui. Et je pense que lui, le jeu c'est avec moi.
Et as.
Donc je suis l'adjoint-chef Patrick Lecomte, j'ai 48 ans, je suis secouriste et maître de chiens avalanche. Je suis également formateur pour les chiens d'avalanche et conseiller technique national des chiens d'avalanche pour la gendarmerie. Alors mon affectation, moi je suis basé dans les Pyrénées au PGHM de Bagnères-de-Luchon et là cette semaine je suis en renfort au profit du PGHM de Briançon pour la permanence avalanche et je viens renforcer cette unité durant leur semaine de permanence. De toute façon, vu que c'est un chien de secours, il faut qu'il soit sociable envers les congénères déjà, parce qu'on peut... Arrête, doucement, oui, on y va. Parce que sur les grosses avalanches, on peut travailler à plusieurs chiens, donc voilà, il faut qu'il y ait une bonne sociabilisation. Et ensuite, il faut qu'il soit sympa avec tout le monde, parce que lui, il est formé pour aller chercher les gens ensevelis sous la neige, donc il faut vraiment qu'il ait l'amour de l'humain. Et c'est aussi important avec l'équipage, avec les secouristes avec qui on travaille, le médecin. Dans l'hélico, on peut se retrouver à 4-5. Et donc voilà, il faut que... C'est déjà un peu stressant pour lui de partir en intervention avec la machine, même s'il y est habitué. Du coup, il faut qu'il soit équilibré dans sa tête et qu'il ait plus envie d'aller faire des papouilles que de croquer tout le monde. Morito. Alors, c'est un berger belge malinois. En gendarmerie, on a essentiellement des bergers belges malinois, un peu de berger allemand. C'est un chien qui est vraiment très dévoué à son maître. Donc en fait, ce qui est important, c'est ce relationnel qui est fusionnel avec le chien et le maître. Il a tellement envie de faire plaisir à son maître qu'on peut tout lui demander. Je dis que c'est un chien de travail parce qu'effectivement, c'est un chien qui appartient à la gendarmerie, mais après, moi, c'est un membre de ma famille. Je veux dire, je passe presque plus de temps avec lui qu'avec ma femme et mes enfants. Qu'il y ait ce lien fort de travail, il faut qu'on passe du temps ensemble. Il n'y a pas que l'intervention qui noue ce lien aussi fort.
Oui, on y va, on va aller se balader. Oui.
Ce qu'on attend du chien sur l'avalanche, c'est de nous trouver les personnes qui sont ensevelies. L'appareil le plus efficace pour les pratiquants de la montagne en milieu enneigé, c'est le DVA, le détecteur de victimes d'avalanche. Mais malheureusement, il y a encore des avalanches où il y a des gens qui se font embarquer et qui ne sont pas en possession de ce détecteur de victimes d'avalanche. Et du coup, le chien, c'est le seul moyen qui nous permet de rapidement de retrouver les personnes sous la neige. En 20 ans, la pratique de la montagne a changé. Je pense que la prévention, l'information sur la possession d'un détecteur de victimes d'avalanche, c'est maintenant monnaie courante, la plupart des pratiquants en possèdent un. Donc la plupart des avalanches qu'on fait maintenant, généralement, les gens sont sortis grâce aux rescapés du groupe. De moins en moins de personnes, heureusement, se font embarquer dans une avalanche sans être en possession d'un détecteur de victime d'avalanche. Ensuite, ce qui change également, c'est le changement climatique. Quels que soient les massifs, on se rend compte qu'il y a vraiment des hivers qui sont avec de grosses amplitudes au niveau des températures, au niveau des précipitations. On peut avoir des enneigements très faibles, donc des pratiquants qui vont quand même sortir et qui vont plus trop se soucier du BRA ou du risque avalanche. Et ensuite, nous, pour maintenir les chiens opérationnels, on doit s'entraîner. Donc on se rapproche des stations de ski qui nous mettent à disposition des terrains préparés à la dameuse. Et on a besoin de neige pour préparer nos chiens. Donc là aussi, on se gratte un peu la tête des fois.
Beau donne. Non, pas touché. Morito, coucher, coucher. Voilà.
Voilà, feuilleton signé Erwan Chassin, réalisation Vincent Godard.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mercredi 13h50, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Aujourd'hui, Éric, j'ai besoin d'une petite explication. Ce rendez-vous s'appelle « C'est la France », mais vous nous parlez du Groenland.
Eh oui, ne craignez rien Jérôme, je n'ai pas été piqué par la mouche recoloniale du trumpisme en louchant cette semaine sur ce grand paradis blanc de l'Arctique. D'ailleurs, ce n'est pas la France, mais quatre fois la France, quelques 2 millions de kilomètres carrés, que cette étendue peuplée d'à peine 60 000 habitants, ce qui en dit long, sur ces vastes espaces de solitude sans un seul arbre à l'horizon. Les temps ont bien changé depuis que le Groenland s'appelait en fait Groenland, littéralement la terre verte en danois, ainsi que la nomma au Xe siècle le célèbre chef viking Éric le Rouge, pour lequel, soyez encore rassurés, je ne me prends pas non plus. Si je fais aujourd'hui un détour par cet énorme glaçon qui renferme entre autres quantité de terres rares et d'hydrocarbures fossiles, c'est pour rendre hommage à l'école française des expéditions polaires et des géographes ethnologues qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a documenté scientifiquement ce territoire inouï ou inuit, comme vous voulez, qui, avant d'être une possession du Danemark, désormais autonome, est d'abord un extrême du monde, un blanc des cartes qui a fait beaucoup rêver. C'est ainsi que deux noms sont restés à la postérité de l'aventure polaire, ceux de Paul-Émile Victor et de Jean Mallory.
En quoi ces deux hommes ont-ils été des pionniers ?
Paul-Émile Victor fut le premier, dès 1934, à s'embarquer sur le navire du célèbre commandant Charcot, le Pourquoi pas, pour partir à la découverte de ceux qu'on appelait encore les Esquimaux. Il apprend la langue des Inuits et, passionné par cette civilisation qu'il découvre, il y retourne deux ans plus tard et traverse le Groenland d'est en ouest en traîneau à chien. 14 expéditions de ce genre se dérouleront ensuite entre 1947 et 1967 et PEV, comme on l'appelait, élargira son aire de découverte à l'Antarctique dans la fameuse Terra Deli. Mais la figure qui reste plus encore associée au peuple inuit est celle du géographe et géologue devenu ethnologue Jean Mallory. À 28 ans seulement, il se lance à son tour dans l'aventure en traîneau à chien et va pendant une année partager la vie quotidienne mais aussi la culture et les légendes du peuple inuit, chantant sa grandeur et alertant sur les menaces qui pèsent sur son existence même. Il en tire un véritable chef-d'œuvre littéraire et scientifique à la fois, un livre total, Les derniers rois de Thulé, publié en 1955, vendu depuis à plus d'un million d'exemplaires, 5 fois réédité, traduit en plus de 20 langues. Ce fut le premier ouvrage de sa collection mythique Terre humaine, qui accueillit le non moins mythique Triste tropique de Claude Lévi-Strauss, vous vous souvenez de la première phrase, je hais les voyages et les explorateurs, et quelques chefs-d'œuvre d'anthropologie sur la France, France, Le Cheval d'Orgueil de Pierre-Jacques Elias ou Le Orsin, Vivre et survivre en Pays de Caux du père Alexandre ou encore Toi nous, Le cri d'un enfant auvergnat.
Vous nous parlez de Jean Mallory qui a disparu en 2024 à l'âge de 102 ans. En quoi est-ce qu'il nous éclaire sur les enjeux du Groenland ?
Eh bien, dès 1951, il alerta sur les agressions américaines en pleine guerre froide avec la construction sur place d'une grande base aérienne. Et en 1968, il dénoncera aussi les conséquences pour le peuple inuit du crash d'un B-52 dont les bombes nucléaires ont gravement pollué la banquise. Ses cendres sont aujourd'hui répandues au Groenland.
Et il y a un lien, Eric, avec la une du 1 Hebdo cette semaine.
Et oui, une bonne transition avec ce numéro au titre jeu de mots Trump de pire en pire, hein, on fait ce qu'on peut, avec un témoignage puissant et magnifique du romancier cubain Leonardo Padura et une carte géopolitique à afficher chez vous, dans ce studio, cher Jérôme, sur les visées du Donald en Amérique du Sud jusqu'au Groenland.
J'aurai bientôt plus de place sur mes murs, c'est un peu le problème de vos posters, affiches explicatives et informatives. Eric Fotorino, le 1 Hebdo, chaque mercredi dans ce 13-14 de C'est la France à C'est une chanson. Il y a 40 ans, jour pour jour, disparaissait Daniel Balavoine. Et à cette occasion, Frédéric Pommier, c'est l'un de ses trois grands frères que vous recevez, Guy Balavoine.
Guy Balavoine qui fut le choriste attitré de son petit frère sur scène et qui participe à la tournée Hommage Balavoine, ma bataille, laquelle débute aujourd'hui même à Alençon, la ville natale de Daniel Balavoine.
J'étais très proche de Daniel. Je vais vous dire, même on avait une maison à Pau où il y avait quatre chambres et on dormait dans la même. Je sais pas, on avait besoin de ça.
Il avait combien d'années de moins que vous ?
Cinq ans. Mais bon, Daniel est arrivé en plus après la mort d'un autre petit frère. Et il se sentait comme le remplaçant du dernier qui était parti. Mais bon, Daniel, on l'a appelé, quand il était petit, Bibiche. Et quand il est mort, on l'appelait toujours Bibiche. Il avait 33 ans, on l'appelait Bibiche encore. C'était vraiment le petit, quoi.
Petite foule danse autour d'un corps s'endormant. Douceur immense pour le départ d'un parent. Calmement.
Et c'est donc Frédéric, Partir avant les miens, qu'a choisi de nous faire écouter Guy Balavoine.
Un titre qu'il a pu entendre avant sa sortie en 1983. C'était quelques mois avant la mort du chanteur.
On était chez ma mère avec mes frères et sœurs. Et puis, Daniel revenait d'Écosse. Et il avait fait cette chanson là-bas. Et cette chanson, quand il nous l'a fait écouter, on était sidérés parce que Partir avant les miens, il parlait de son enterrement, de l'amour qu'il avait pour ses parents et ses frères et sœurs. Ça nous a stupéfaits. On lui a dit, Daniel, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Enfin, Bibiche, comment tu peux enregistrer un truc comme ça ? Ben, ça lui est venu comme ça, et je sais pas, c'était prémonitoire, c'est très étonnant. Et alors, quand il est mort, se souvenir de cette chanson, c'est une horreur. Et bon, écoutez, il disait qu'il voulait partir avant les siens, et ben, il est parti avant les siens, malheureusement.
Vous vous rappelez du jour de sa disparition ?
Ah oui, je me souviens, oui. Oui, je me souviens que j'étais à Dax et j'ai téléphoné à mon ex-épouse et elle me dit pardon. Daniel est mort. Et j'ai l'impression que c'est hier, quoi. Et c'est le choc de ma vie, ça.
Et j'ai souvent souhaité partir avant les miens pour ne pas hériter de leur flamme qui s'éteint.
Est-ce qu'il vous est arrivé par la suite de réécouter volontairement cette chanson ?
Ben, écoutez, l'entendre chanter, ça ne me dérangeait pas. Des fois, on allait dans les grandes surfaces, on entendait, bon. ce qui me touche toujours, c'est quand il parle. Ça, c'est terrible.
Les interviews.
Eh oui, quand il parlait, c'était horrible.
Père et mère, sœurs et frères, je vous aime puissamment. N'adressez aucune prière.
Est-ce que vous diriez que cette chanson, Partir avant les miens, c'est une des plus belles chansons de Daniel Balavoine ?
Ah, c'est une des plus belles, parce qu'il déclare en plus de l'amour pour sa famille, il dit « Où que j'aille, je vous attends ». C'est très prenant. Dans ses buvets, en me berçant, et que je vous aime en m'endormant. C'est une chanson qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier une chanson comme ça. C'est pas possible.
Que je vous aime en m'endormant.
Partir avant les miens. Daniel Balavoine, c'était donc Frédéric Lechoix et l'émotion, on l'a entendu, de son frère Guy Balavoine.
Guy Balavoine, que vous pouvez retrouver dans le spectacle Balavoine, ma bataille, dont la tournée commence ce soir à Alençon.
Merci Frédéric et à demain.